معكم دائما ومباشرة من إذاعة الشرق من باريس، نواصل معكم هذا البث المباشر. وكما وعدتكم معنا الآن أون دوبلكس من مدينة بوردو دكتورة ربيعة أبو علي بن عزوز. مساء النور دكتورة ربيعة، وشكرا على قبول دعوة البرنامج مرة أخرى.
شكرا أستاذة زهور على الاستضافة، شكرا للمستمعين والمستمعات الكرام. فخورة جدا أنني نكون معك اليوم للمرة كنظن ثالثة ولا ما نعرف.
أهلا بك دكتورة ربيعة أبو علي، وطبعا الصدى طيب خليتيه عند المستمعات والمستمعين بسبب طبعا الأسلوب البسيط في الحديث عن مواضيع طبية شائكة خاصة في هذه الفترة، فترة الوباء. جو رابيل لزوديتور دكتور ربيعة أبو علي بن عزوز كو فوزيت نوروبيولوجيست انجينيور دو ريشيرش ا لونيفرسيتي دو بوردو او سان دو لانستيتو دي مالادي نورو ديجينيراتيف. دونك اجوردي اون فا بارلي دي نوفو variant du Covid-19. يعني احنا يعني قلنا on fait l'effort pour se débarrasser du coronavirus. جاونا les nouveaux variants. Alors c'est quoi ces nouveaux variants docteur Rabia, pour les auditeurs qui connaissent pas et qui se posent beaucoup de questions parce qu'ils entendent ça souvent dans les journaux mais ils comprennent pas de quoi il s'agit exactement.
Ah, c'est une très bonne question effectivement. Ça vaut le coup de la préciser dès le départ parce qu'effectivement depuis cette fin d'année 2020, on entend parler de ces mots souches, variants du coronavirus, puisque c'est le virus en fait qui nous suit jusqu'à maintenant encore, comme tu l'as très bien dit. Ce sont des mots techniques, mais normalement, ils disent la même chose. C'est-à-dire, le terme souche ou variant, c'est exactement la même chose. Quand on parle en fait de souche ou de variant pour un virus, c'est que son matériel génétique a suivi plusieurs mutations. Alors, c'est important de dire plusieurs mutations, pas une seule mutation. On va revenir sur ce mot mutation. Pareil, il faudrait aussi le vulgariser un peu plus. Juste de façon très succincte, on parle de variation génétique, c'est-à-dire mutation génétique, plusieurs. Mmh. S'il y en a une seule ou une ou deux, par exemple, c'est pas beaucoup. Donc, par exemple, si on revient au Covid-19, le SARS-CoV-2 a connu en fait plus de 2000 mutations depuis son apparition. C'est-à-dire que c'est un virus qui a la caractéristique de changer de façon rapide et régulière, mais que ces mutations-là, quand elles sont minimes, ils ne vont pas l'affecter, ils ne vont pas changer sa fonctionnalité. Par contre, quand il y a plusieurs mutations, et surtout sur une partie importante, on en parlera aussi tout à l'heure, c'est une partie importante comme le gène qui va coder ou qui va nous donner la protéine spike qu'on entend si souvent à la télé ou à la radio. C'est vrai que ça touche, on va dire, un point fort du virus, donc il peut changer sa fonctionnalité. D'où maintenant on parle de variants, donc de souches, c'est-à-dire on n'est plus avec le Covid, enfin plutôt le SARS-CoV-2 classique qui donne le Covid-19, mais on a des nouveaux invités tout simplement, qui ont conquis un peu le monde depuis, je dirais, quelques mois maintenant.
Alors, docteur Rabia Abou Ali Ben Azouz, c'est quoi une mutation et comment apparaît-elle, puisque vous avez parlé, bien sûr, au début de cette émission, de la mutation? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, je vais probablement essayer d'expliquer ce que ça veut dire la mutation en donnant un exemple très que connaît tout le monde, l'exemple du livre. Un livre, comme tout le monde le sait, est écrit. Donc on a un texte, on parle du texte d'un livre, et bien ce texte pour le livre, c'est exactement le code génétique pour un virus. De manière générale, donc le code génétique, c'est son ADN ou son ARN. Et on sait qu'avec l'alphabet qu'on écrit un texte. Et donc la base du code génétique pour un virus, ce sont les nucléotides. Donc grosso modo, si on fait l'homologie, nucléotide pour le virus, ça représente l'alphabet pour un texte. Et les nucléotides, quand ils vont s'associer, c'est un peu comme l'alphabet, hein, on va avoir un mot plus ou moins long, et bien ces nucléotides vont s'associer entre eux, ils vont donner un message, ils vont former un message. Et donc ce message-là, ou ces messages d'un virus, vont déterminer si un virus va devenir contagieux, va devenir dangereux, etc. Alors, tu m'as posé aussi la question, quand est-ce que ça apparaît? Mais ça, je pense maintenant tout le monde sait qu'un virus à l'extérieur des cellules d'un organisme, il ne peut pas se produire. Il est vraiment, il ne peut se multiplier ou se produire que quand il va pénétrer dans la cellule d'un organisme. Par exemple, si on parle de coronavirus ou de SARS-CoV-2 actuel, il ne peut se multiplier que quand il va pénétrer dans nos cellules à nous. Et pourquoi en fait? Parce qu'il a besoin de cette machinerie de nos cellules pour pouvoir se multiplier. Donc, ces cellules, quand ils vont s'infecter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de faire leur rôle normal, ils vont commencer à aider ce virus à faire des copies, tout simplement, des photocopies comme un photocopieur. Eh bien, lors de ces photocopies, il paraît, et c'est connu dans le monde de virologie, de biologie moléculaire, que lors de ces copies, il va y avoir des erreurs d'assemblage de ces nucléotides. C'est comme, par exemple, si je donne un exemple très simple, quelqu'un qui est en train, par exemple, de faire entrer tout simplement un collab l'arbiya, yani johar, un johar, maintenant, c'est l'alouane, quand on fait johar, مرة يعني normalement نديرو 4 ديال الزوراق مثلا 4 ديال جوهرة الزوراق 4 حمر 4 بويض ان سيغتان مومون الى فينا نديرو 5 البويض مثلا على بلاص دو 4 ولا كيلك شوز كوم سا دونك سي زيرور الوغ سي اون سو رون كونت دو سويت اون بو لا ريباري دونك غنوليو نحيد من الخيط ديالنا ديك الجوهرات ونوليو نعدلو لو نون كيفو مي دي فوا اون سو رون با كونت اي سي اون سو رون با كونت cette erreur va rester et donc on va avoir un nouveau, on va dire, collier qui n'a rien à voir avec celui qu'on a designé au début. Et bien cette erreur dans l'alphabet, si on parle du livre, c'est exactement l'habitation pour un virus. C'est-à-dire que Johara, Zarqa, Aoula, Albida, de temps en temps, elle vient perturber le on va dire, l'ordre d'un design, d'un collier particulier. Je suis désolée, j'ai donné des exemples très simples, mais je pense que c'est important pour que la compréhension de ces termes soit plus, en tout cas plus générale.
Donc, les variants, il a fait ça, moi, personnellement, هو من سلالة ديال الفيروس اللي ظهر في الأول اللي هو الكوفيد 19 دكتورة ربيعة.
Tu as tout à fait raison, Lala Zohor, c'est exactement la souche classique. C'est le coronavirus, c'est le SARS-CoV-2 qui a donné le COVID-19. Et donc, on a une limitation sur le matériel génétique de ce virus classique, c'est-à-dire celui, on va dire, le père. Voilà. Quand il y a ces variations-là, on parle de variants ou là de souches.
D'accord. Alors combien de variants, docteur Rabia, combien de variants de COVID a-t-on recensé jusqu'à aujourd'hui?
Alors, en fait, les plus importants qu'on entend souvent sont trois, mais en réalité, il y en a cinq. Il y a le variant anglais que tout le monde maintenant connaît. Il y a le variant qui vient du Sud-Afrique. Il y a le variant brésilien. Il y a le variant aussi de Californie. Il y a un autre variant aussi bavarois qui vient d'Allemagne. Et en France, donc je pense pareil, c'est les gens maintenant qui suivent les informations, ont déjà entendu parler qu'en France, on a déjà les trois variants, ils sont déjà présents sur le sol français. Mmh. En fait, ils ont, ce que j'ai dit, maintenant on donne le nom du pays, là où ils sont apparus pour la première fois, mais après, avec effectivement le fait que les gens se déplacent de ces endroits-là vers d'autres pays, donc on les fait dessiner, c'est nous qui les propageons voilà, à travers notre organisme.
Quoi. Alors, docteur Rabia, تقريبا هذه سنة وإحنا طبعا نسمع عن كوفيد 19 ونتعلموا كيفاش نحميو نفوسنا من هذا الفيروس. Maintenant, on parle des variants. Est-ce que ces nouveaux variants sont plus contagieux que la souche classique ou bien non?
Ah oui, très très bonne question, effectivement. On a peur effectivement que ces variants soient plus contagieux. Et effectivement, il y a des études qui ont déjà commencé à être publiées et qui sont pratiquement tous d'accord pour dire que ces nouveaux variants se propagent beaucoup plus vite et de façon plus rapide déjà dans les régions où ils sont apparus. Si on parle, par exemple, du variant anglais, donc en Angleterre, on était quand même là en janvier-février, on a entendu que la propagation était fulgurante et on parle même d'une propagation qui va jusqu'à 50 à 75% plus que le Covid, on va dire classique, celui qu'on a connu, celui le Covid-19. Et donc, ce qui est important aussi à retenir, c'est qu'il y a, quand on va analyser des génomes, par séquençage, en fait c'est un terme aussi technique, mais c'est un terme qui est très utilisé en biologie moléculaire, c'est-à-dire la lecture de ce code génétique dont on a parlé tout à l'heure, sur une période, c'est une étude qui a été faite sur la période d'octobre à décembre, sur ce variant anglais. Cette étude a montré que cette souche hein, ou ce variant, il est beaucoup plus contagieux que le premier. Ça ne veut pas dire qu'il est plus, on va dire, plus mortel. En tout cas, il se propage beaucoup plus vite. Il va de 50 jusqu'à 75% plus que le variant classique. Et c'est le même constat a été fait aussi pour les variants venant du Sud-Afrique ou du Brésil. D'accord. Mais je dirais que pour ces deux variants, parce que les trois variants dont on parle actuellement souvent, ils ont la même mutation. C'est une mutation qu'on appelle N501Y, qui est similaire, c'est-à-dire ce changement génétique dont on a parlé aussi tout à l'heure, c'est la même mutation dans les trois variants des virus. Mais le variant, on va dire, sud-africain et brésilien, ils ont cette mutation-là, mais ils ont en plus une autre mutation qu'on appelle E484K. Et cette mutation-là, avec la première, le rend encore plus contagieux. Donc effectivement, il est plus contagieux, ça veut dire qu'il faut faire encore plus attention, mais ça ne va pas dire qu'ils sont plus dangereux, en tout cas non.
Alors, docteur Rabia, est-ce que les symptômes, l'arad, ils sont les mêmes?
Là aussi, les études, à ce jour, en tout cas, je dirais, ils sont un peu controversés. Parce qu'il y en a qui disent que ce n'est pas du tout les mêmes symptômes. Par exemple, il y a une étude qui a été faite par l'Office national de statistique anglais, et qui est apparue la fin janvier, qui a montré que concernant la perte de goût et d'odorat qu'on connaît chez comme symptôme du Covid-19, ces symptômes sont moins fréquents chez les personnes touchées par ces variants, le variant anglais. Par contre, la toux, le mal de gorge ou la fatigue, il semblerait que ces symptômes sont beaucoup plus présents chez les personnes qui sont touchées par ces variants-là. Il y a parfois cependant, comme je l'ai dit, quand les études sont encore controversées, il y a une autre étude aussi qui a été faite récemment et qui dit qu'il n'y a pas vraiment de différence si on parle ou si on compare les symptômes des symptômes issus par... exprimé par les variants ou par la souche d'origine. Il n'y a pas de différence.
Docteur, Docteur Rabia Bouali Ben Azouz, donc on est en plein campagne de vaccination. Les nouveaux variants et la vaccination sont-ils compatibles?
Déjà, on va marquer peut-être une petite pause juste sur la vaccination de façon générale. Je vais faire une petite parenthèse. Je pense que c'est très important de se faire vacciner. Cependant, parce qu'il y a des gens aussi qui se posent des questions, et c'est tout à fait normal de se poser des questions, il faudra probablement se rapprocher de son médecin traitant, justement quand on a un doute, par exemple si on souffre d'une maladie particulière, il faut absolument avoir le conseil de son médecin pour justement, on va dire, conseiller le patient, soit il faut qu'il soit vacciné ou pas, etc. Donc de façon générale. Maintenant, si on regarde l'efficacité, si j'ai bien compris ta question, l'efficacité donc de ces vaccins qu'on a déjà, qui sont déjà sur le marché et que les gens ont commencé à se faire vacciner avec, l'efficacité par rapport
aux nouveaux variants.
Alors, il y a des études aussi là-dessus concernant ces vaccins et qui disent qu'ils sont encore efficaces, surtout dans les formes graves qui sont causées par le Covid. C'est-à-dire les personnes qui ont des symptômes dramatiques avec le Covid ou suite au Covid, que ce soit les variants ou le classique, s'ils sont vaccinés par ces vaccins-là, ils vont avoir des symptômes moindres, en tout cas pas aussi forts que s'ils n'étaient pas vaccinés. Par contre, les vaccins ARN, ça c'est vrai que ça a été déjà... publié aussi, ça a été déclaré en tout cas par les firmes qui les ont synthétisés, les vaccins ARN, comme Pfizer par exemple, le biotechnique qui est utilisé en France, ou Moderna aux États-Unis, sont des vaccins qui ont encore une efficacité sur ces nouveaux variants. Donc on n'a pas à avoir peur, je dirais, de se faire vacciner. Et de toutes les façons, on ne sait pas, on ne peut pas savoir par quelle souche on va être touché. Est-ce que c'est la souche classique ou le variant classique ou le nouveau ? Donc dans tous les cas, la vaccination reste quand même, avec les mesures sanitaires, reste la meilleure solution pour se protéger des effets donc des Covid.
Alors pour finir, il nous reste 1 minute 30, docteur Rabia. Comment se comporter face à ces nouveaux variants ? Les conseils qu'il faut donner aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui ?
Alors, pour répondre à cette question qui est toujours d'actualité, je vais essayer de répondre à deux niveaux. D'abord, je dirais à l'échelle mondiale, l'OMS a émis des recommandations justement pour que les États fassent plus de séquençage. C'est-à-dire, il faut qu'on sache quels sont les types de variants qui existent un petit peu maintenant partout dans le monde, premièrement. Et ils ont aussi donné la recommandation de partager ces données. C'est-à-dire, il faut qu'on a les informations, il faut qu'on les partage avec le plus grand nombre d'États, justement pour que tout le monde collabore scientifiquement et travaille là-dessus. Et la troisième recommandation, c'est que l'OMS donc, souhaite qu'on accélère ces campagnes de vaccination dans tous les pays du monde. Et ce, dans les 3 mois à venir, ils disent qu'il faut accélérer. Parce que vous comprenez bien, si on est vacciné, si on vaccine tout le monde en France et que, par exemple, dans un autre pays et qu'on voudrait aller là-bas où les gens viennent ici, ça ne veut rien dire. Il faut que tout le monde se vaccine. Ça, c'est une histoire, je dirais, réglée. Par contre, à l'échelle individuelle... On attend dans sa dose de vaccin. Et même quand on est vacciné, il faut surtout ne pas lâcher les trois points importants, c'est-à-dire la distanciation. Moi, je dirais la distanciation, il faut l'accentuer, c'est-à-dire avant on disait minimum 1 mètre, moi je dirais il faut respecter cette distanciation, mais si on peut ne pas être en face de l'autre 2 mètres, voire plus, aérer nos bureaux, nos maisons, ça c'est toujours d'actualité, le lavage des mains et les masques. Alors vous avez déjà entendu que maintenant les directives aussi par rapport aux masques, c'est qu'on ne peut pas mettre n'importe quel masque, puisque c'est des variants qui sont beaucoup plus pénétrants et beaucoup plus contagieux. Donc il faudrait qu'on fasse attention aux masques qui sont de la catégorie 1. Ça veut dire qu'on ne pourra plus utiliser les masques, en tout cas artisanaux, qu'on utilisait à la maison, parce qu'on n'avait pas de contrôle sur la qualité du tissu. Mais je dirais aussi qu'on peut acheter des masques chirurgicaux, puisqu'on a la possibilité de les relaver plusieurs fois.
Combien de fois ?
Une dizaine de fois. Dizaine de fois. Ça, c'est une étude aussi scientifique. Mm-hmm. C'était passé aux
Mais à quelles conditions ? À quelles conditions, docteur Rabia ?
Alors, le mieux, comme je le dis, effectivement, quand on fait une machine à la maison, c'est bien qu'on passe dans un petit sachet particulier, on met tous les masques qu'on aura déjà regroupés dans un endroit hermétique, on les met dans le sac, soit seul, mais je dirais avec d'autres affaires, il n'y a aucun problème, puisque la température normalement tue tous les virus, il n'y a aucun problème pour ça, et on peut les réutiliser, il n'y a aucun souci ils sont toujours valables, c'est-à-dire que leur pouvoir, en tout cas filtrant, n'est pas touché jusqu'à une dizaine de lavage.
Et pour que les ados acceptent de porter ces masques déjà lavés, je vous conseille de les repasser. Merci beaucoup.
Je t'en prie, Madame Jorol, c'est toujours un plaisir et je remercie tous les auditeurs et les auditrices et je suis à votre disposition quand vous voulez.
Merci à vous pour tous ces conseils, Dr Rabia Abou Ali Ben Azouz. Je rappelle que vous êtes neurobiologiste, ingénieur de recherche à l'Université de Bordeaux au sein de l'Institut des maladies neurogénératives. C'est bien ça. Merci beaucoup, Dr Rabia.